10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Une chanson de circonstance en ce dimanche de Pâques. L'air de jeu, c'est parti jusqu'à midi. Bonjour Claire.
Mais bonjour Fred. Bonjour à vous tous et à vous toutes.
Comment tu vas?
Mais ça va bien. Nickel.
En tout cas, elle a mis les gants. Elle est prête, hein, Claire, hein, ce matin.
Ah oui, je suis prête. En tout cas, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'air de jeu. Ah, qui ce matin hein, va envoyer du lourd. Ça va être une matinée musclée puisqu'on vous propose de découvrir le MMA. Et oui, coup de projecteur sur ce sport. Vous saurez tout sur le MMA avec notre invité. Il s'agit de Nelson Carvalho qui a pratiqué pendant quelques années. Hein, ce sport et qui maintenant eh bien, l'enseigne. Nelson, bonjour, comment ça va?
Bonjour à tous, très bien.
Alors, vous êtes avec nous pour parler de ce sport. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, si vous suivez l'émission en vidéo, on a, c'est ça, c'est les gants pour pratiquer
c'est les gants,
le MMA.
Les gants de combat,
ça vous va bien, je trouve, Claire.
C'est vrai
les gants
de... C'est parfait, alors. Bon, on va s'attaquer à ce sport. Alors, Nelson Carvalho, vous êtes d'origine portugaise. Vous êtes arrivé à Neuchâtel à l'âge de 5 ans. Votre papa était karatéka. En mars 2015, en battant Kenta Tagaji, eh bien, vous avez été sacré champion du monde de combat libre, de MMA au Japon, chez les Walters. En 2017, vous avez cessé les combats en arts martiaux mixtes et décidé de vous consacrer à votre rôle d'entraîneur. Vous êtes d'ailleurs le directeur du Fight Move Academy à Neuchâtel. Et puis en février dernier, à Belgrade, on vous a décerné la Black Belt. C'est une prestigieuse distinction offerte aux coachs qui contribuent au rayonnement du sport. Bravo pour toutes ces choses. Vous avez été plusieurs fois hein, quand même champion du monde. Vous avez beaucoup de titres à votre actif. Alors, qu'est-ce que le MMA?
Le MMA, c'est pour arts martiaux mixtes. Au tout début, ça ne s'appelait pas comme ça. C'était plutôt le Vale Tudo qui a eu lieu au Brésil. L'année exacte, je ne pourrais pas vous la dire, c'est peut-être 30, 40 ou 50 ans même. Et l'objectif du MMA, en fait, c'était, qui n'était pas encore le MMA, qui était le combat libre, c'était de mettre des athlètes de toutes disciplines différentes, karatéka, judo, jutsu, boxe thaïlandaise, boxe anglaise, et de voir qui était le meilleur sport, en fait. Quel était le sport le plus complet. Et c'est grâce au jutsu brésilien, en fait, c'était une personne qui était vraiment spécialisée dans les techniques d'amener au sol et de soumission. Je résume un petit peu. Hein. L'objectif pour lui, c'était d'amener le plus rapidement son adversaire au sol pour le neutraliser, soit avec un étranglement, soit avec une clé. Et on a vu justement des combattants de la famille Gracie qui avaient tout juste 70 ou 80 kilos et qui affrontaient des Golgoth surentraînés de peut-être avec 20 ou 30 kilos de plus et qui les amenaient au sol et qui les étranglaient et qui arrivait rapidement à éradiquer leur puissance de frappe et autres. Et un jour, les gens ils se sont quand même dit « Mais si lui peut le faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour pouvoir affronter des gens comme ça ?» Ils ont commencé à s'entraîner à la lutte, au jiu-jitsu brésilien, et c'est devenu le MMA qu'on retrouve aujourd'hui. C'était un sport très complet, un sport de percussion, un sport d'amener au sol et de soumission.
Voilà. Mais vous parlez d'étrangler, ça fait un peu peur quand on entend ce mot.
Non, mais écoutez, dans le judo classique, les étranglements, les clés de bras, c'est des choses très classiques. C'est-à-dire que ce que vous retrouvez aujourd'hui dans les sports de combat mixte, le MMA, c'est simplement des sports d'autres disciplines olympiques aujourd'hui, que ce soit le judo ou le karaté ou la lutte. On a juste relié tout ça, on a fait un mix pour réussir à faire des transitions entre les techniques pour avoir un athlète complet.
L'air de jeu, le défi.
Le défi photo, vous allez devoir nous envoyer des photos sur un thème que nous avons choisi et vous avez jusqu'à midi moins le quart pour réaliser le défi. Et puis, vous allez nous envoyer vos photos par WhatsApp au 079 809 2020. Mais quel est le défi d'aujourd'hui? Pour remporter cette carte cadeau lundi, vous allez nous dévoiler, Nelson, le défi du jour.
Un défi sportif, j'espère.
Non, ce ne sera pas un défi sportif. On va faire quelque chose d'assez simple. On va choisir des shorts. Moi, j'ai amené des shorts de combat.
Vous pouvez les montrer à la caméra.
Alors, on a des shorts de boxe thaï, on a des shorts de combat un petit peu funky comme ça, ou des shorts un petit peu plus classiques. Alors, à vous de nous faire une photo de votre plus beau short de bain, de sport de combat ou de foot, peu importe.
Et puis si vous connaissez bien Claire, il faudra un short rose.
Et un short rose,
je pense que ça va être important.
Alors, je dis tout de suite, celui-là qui me sort un short de boxe taille rose a gagné.
Voilà, vous savez ce qui vous attend, donc écrivez-nous directement, vous nous envoyez un petit WhatsApp 079 809 2020.
10h, midi, envie de prendre l'air de jeu.
On continue cette émission consacrée au MMA avec notre invité Nelson Carvalho.
Ça vous tenterait, vous, Fred, de faire du MMA? Non,
je crois que je n'ai pas le physique pour faire ça. D'ailleurs, c'est une question. Comment ça se passe au niveau physique pour,
Alors, en fait, il ne faut pas être fort pour commencer. Il faut juste commencer pour le devenir. Mais physiquement, on a des enfants de 5 ans qui font du MMA. C'est avec des méthodes bien pédagogiques. C'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune restriction. C'est, comme je pense, la difficulté, c'est la compétition.
Ouais.
Parce qu'il vous rend, c'est pas évident, c'est pas fait pour tout le monde. Mais comme sport loisir, c'est vraiment exceptionnel parce qu'on travaille tous les aspects physiques et mentaux d'autres sports.
C'est, que vous c'est quand même beaucoup de préparation pour participer à un sport comme ça, j'imagine.
Pouvoir combattre, oui, c'est énormément de preuves. Les gens, ils se rendent pas compte des sacrifices qu'il faut. Et
beaucoup d'heures de fitness.
C'est pas du fitness, mais beaucoup d'heures de préparation. Et en fait, c'est un volume d'entraînement qui est tellement énorme parce que justement, comme c'est un mélange d'arts martiaux, vous devez être complet, le plus complet possible. C'est-à-dire que vous ne devez pas être le meilleur partout, mais vous devez être le plus complet partout. Alors ça demande des heures de lutte, des heures de boxe, des heures de boxe thaï, des heures de préparation physique.
Ouais. Il faut des assurances particulières pour un sport comme ça qui peut être dangereux, non?
Non, mais est-ce qu'il faut des assurances particulières pour faire du rugby ou de la Formule 1?
Non, mais parce que j'ai une petite vanne, comme on dit, zéro tracas, zéro blabla.
Oui.
MMA.
Il fallait que je la place à un moment donné.
Elle est pas mal, c'est vrai. Alors, pourquoi, Nelson, vous avez choisi, vous, ce sport-là? Quelles ont été vos motivations? Est-ce que le fait que votre papa était karatéka, ça a un petit peu influencé?
Moi, j'étais bercé dans les sports de combat très jeune. Très jeune, dans le sens, je voyais mon père faire du karaté à la maison, des katas, parce que comme il était, mon père a vécu longtemps à Paris. Et ensuite, il n'y avait plus de travail en France. Alors, il est venu en Suisse. Et je le voyais faire ses katas après le travail. Il a fait un travail assez dur. Là, il n'avait pas forcément le temps ou il n'avait pas retrouvé les endroits où s'entraîner. Et en même temps, on regardait beaucoup de films de Jackie Chan, de Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme. Et j'ai toujours cherché un sport. J'ai toujours cherché à progresser, à découvrir le sport le plus complet. Et progressivement, j'ai commencé par le full contact, ensuite le kickboxing, la boxe thaï, j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien, et finalement, la finalité, c'était vraiment le MMA.
Le jiu-jitsu brésilien, qu'est-ce qu'il a de différent?
Par rapport au jiu-jitsu traditionnel, ouais. Alors, le jiu-jitsu brésilien est vraiment consacré, c'est que vous amenez l'adversaire au sol, et le but, c'est de pouvoir l'immobiliser justement avec des clés ou des étranglements. Voilà.
Alors c'est quoi quand on parle de clé et d'étranglement? Moi ça me perturbe.
C'est compliqué. Il me faudrait un exemple là, mais une clé articulaire, c'est une extension du bras où la personne elle abandonne tout simplement. C'est que vous pouvez immobiliser ou réussir à faire abandonner un adversaire sans lui provoquer de blessure autre que sans devoir le frapper, c'est ça qui est intéressant. C'est énormément utilisé dans la police ou dans les forces d'intervention spéciale ou dans le self défense. C'est vraiment quelque chose de très efficace. C'est que même quelqu'un qui est physiquement moins fort qu'un autre, avec la technique, il arrive à le battre. C'est ça qui est intéressant.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
On continue donc dans notre thème d'aujourd'hui, le MMA. Alors, lorsque l'on parle de MMA, Nelson, on voit les films avec les gens qui se tapent dessus, ils sont dans une cage en fer, c'est un petit peu glauque, c'est surtout caché, hein. C'est vraiment pas des combats qui sont mis au grand jour, hein. C'est plutôt tenu secret. On voit les compétiteurs, les combattants qui reviennent, ils sont vraiment très amochés. On a cette image-là. Est-ce que c'est vraiment véridique ou c'est un petit peu ouais, dans les films?
Non, je pense qu'il faut faire vraiment la différence entre la fiction et la réalité. C'est que, bien sûr, c'est plus intéressant pour le cinéma de décrire le MMA, un truc un peu tragique, etc. Alors que aujourd'hui, on remplit des stades de 50 ou 100 000 personnes, c'est médiatisé. Il y a des millions de personnes qui assistent au MMA comme pour un Super Bowl ou pour un match de foot de Champions League.
Alors pourquoi c'était comme ça, caché? Pourquoi ça n'avait pas autant cette notoriété?
Je pense que ça n'a pas été caché, c'est juste le public, un certain public ne connaît pas. C'est que ça a longtemps été interdit en France, bien sûr. Ça a été légalisé il y a 4-5 ans et aujourd'hui en France, je crois que c'est le quatrième pays où il y a le plus d'auditions de visibilité pour le MMA. Alors ça montre à quel point ce sport est bien structuré aujourd'hui. C'est que, bien sûr, au tout début, on décriait comme un sport très violent. Bien sûr, c'est un sport violent. Le but, c'est quand même de vaincre son adversaire par le faire abandonner ou le mettre KO, bien entendu. Mais tous les moyens sont faits pour mettre en sécurité l'athlète. Et ensuite, il faut bien faire la différence entre les sports de combat de compétition et les sports de combat loisirs, qui sont encore une chose bien différente. La cage, comme vous disiez, elle est là avant tout pour donner une sécurité à l'athlète. Comme il y a des projections comme en judo ou en lutte, imaginez si c'était dans un ring, vous pouvez facilement traverser entre les cordes et atterrir sur le sol et là vous blesser. Comme on voit un petit peu au catch, et où là c'est justement une comédie, mais si ça arrive réellement, il y aurait vraiment des risques que l'athlète se blesse. Alors la cage, elle est avant tout pour sécuriser, et en plus on peut l'utiliser pour pouvoir se relever après une projection, et elle fait partie entièrement de la stratégie d'un combat.
Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres mesures qui sont mises en place pour la sécurité des combattants?
Simplement la préparation, c'est qu'aujourd'hui il y a une préparation physique, mentale et technique qui est... on parle plus de simples combattants, on parle vraiment d'athlètes. Et tous les coups qui sont interdits dans les autres disciplines le sont aussi dans les MMA. Alors au final, on passe d'un combat qui est tout permis, au final, où beaucoup de choses ne sont pas permises.
Au niveau mental, qu'est-ce que vous travaillez exactement?
Y a certains combattants qui sont encadrés par des préparateurs mentaux, c'est-à-dire de visualiser la victoire, le but à atteindre, mais je pense que la meilleure façon de préparer un athlète, c'est de le préparer le plus possible pour qu'il se sente confiant. Il n'y a que ça, hein. Il n'y a que la préparation, le travail. Hein.
Est-ce que les filles, ça donne aussi à ce sport-là?
Oui, énormément, que ce soit en sport loisir ou en sport de compétition, il y a énormément de filles qui pratiquent ce sport. Je ne veux pas décrier les autres sports, mais on parle de MMA, c'est un sport dur, etc. Mais la boxe, n'oubliez pas que la boxe, 90% des coups sont portés au visage. Alors qu'en MMA, comme c'est les arts martiaux mixtes, il y a toujours des phases de lutte, des phases de percussion aux jambes, au corps, il y a des phases de contrôle. C'est-à-dire qu'au final, on reçoit quand même beaucoup moins de coups au visage qu'en boxe anglaise.
Oui, parce que c'est vrai que si on pratique ce sport-là en tant que femme, si on est défigurée chaque combat...
Bien sûr, ça reste comme un sport où vous recevez des percussions, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de coupures, mais... Au niveau de l'intégrité physique, il y a quand même beaucoup plus de, il y a beaucoup moins de soucis qu'en boxe anglaise.
Oui, j'imagine que par exemple pour un jeune, un enfant qui est un petit peu hyperactif, ça peut un petit peu le calmer.
Nous, on a un club formateur, c'est-à-dire qu'on a énormément de jeunes. Tout ce qui est sport de la ville, ils viennent aussi s'entraîner chez nous. Et sans parler des valeurs qu'on transmet et de la discipline, on a aussi des méthodes d'entraînement qui sont là pour préserver les jeunes, pour pas qu'ils reçoivent de coups au visage ou à la tête, comme aujourd'hui ils font dans le foot, hein, c'est-à-dire qu'on évite tous les reprises de coups de tête pour marquer des buts, et ils pratiquent toute la partie lutte ou percussion au corps, sans recevoir de frappe au visage, et pour que les parents ils soient sûrs de retrouver leurs enfants... bien entier après les...
Ça doit être un peu stressant quand même pour les parents quand sont...
Non,
pas du tout.
Non, parce que ils nous font confiance et ils s'assistent quand même régulièrement au cours et ils voient que c'est bon enfant. La lutte pour un enfant, c'est naturel, s'agripper, se jeter au sol, c'est quelque chose qui est fondamental, vraiment très naturel. C'est que s'agripper, se jeter au sol, c'est très ludique pour les enfants. Et vous voyez rarement des enfants qui se font mal.
Ouais, puis le fait de poser des règles aussi directement avec les enfants.
La discipline, la règle, voilà. On leur apprend que c'est un sport quand même qui peut blesser, on peut faire mal. Je pense que c'est comme rien à voir, mais c'est comme une arme à feu. Quelqu'un qui connaît une arme à feu, il y aura jamais, vous verrez jamais d'accident. La plupart des accidents, ils viennent des gens qui ne connaissent pas et qui vont prendre une arme à feu sans vérifier qu'elle est chargée ou autre, et ils vont la porter sur quelqu'un. Et les sports de combat, c'est la même chose. C'est que vous, ça, on apprend aux jeunes que donner un coup de poing au visage, il y a des répercussions qui peuvent être sévères.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
L'air de jeu avec, comme vous l'avez dit, Fred Nelson Carvalho, pour vous présenter le MMA, un sport qui regroupe différents arts martiaux. Alors, quelle est la tenue quand on pratique ce sport-là ?
La tenue pour être le plus à l'aise possible, c'est, en général, c'est un short, pour l'entraînement, je parle, c'est un short et un t-shirt. Et après, il y a tout l'équipement, les protèges fibias, les gants, les casques, les coquilles, etc. Aujourd'hui, il y a un grand travail qui est en train d'être fait pour le sport amateur, c'est le MMA amateur, comme ils veulent le rendre sport olympique. Et là, par contre, c'est bien codifié, c'est-à-dire que c'est un t-shirt lycra qui colle au corps, des shorts, des protèges tibias et des gants rembourrés, c'est un petit peu plus rembourré que cela, pour plus protéger. Et ensuite, les règles diffèrent un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de coup de coude, il n'y a pas de coup de genou au visage, qui est totalement interdit pour éviter aussi les coupures rapides et que permettre aux athlètes de combattre plusieurs fois dans la semaine, parce que on était dernièrement au championnat du monde en Ouzbékistan et le championnat d'Europe en Serbie. Il y a certains athlètes qui peuvent combattre 4 à 5 fois dans la semaine. Et là, il y a vraiment une tenue codifiée pour, comme à la boxe anglaise aux Jeux Olympiques, où ils ont un t-shirt bleu avec les shorts bleus ou un t-shirt rouge avec un short rouge.
Les pieds ne sont pas protégés, hein, vous êtes pieds nus comme à la boxe.
Exactement, comme à la boxe. Alors, comme à la boxe thaï ou le kickboxing, il n'y a pas de protection pour le combat professionnel, c'est uniquement les gants. Le protège-dents qui est obligatoire, le short et la coquille qui est obligatoire. Les coups dans les parties génitales sont totalement interdites, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Tout comme les doigts dans les yeux, les morsures, tirer les cheveux, toutes ces choses-là qui pourraient être utiles dans des sports de défense, bien sûr, mais dans les sports de compétition, c'est totalement interdit.
Quel style le combattant va-t-il adapter selon le style de son adversaire ?
En général, on va toujours s'adapter. Il y a une stratégie qui est préparée, c'est qu'on analyse les vidéos, on regarde quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses forces. Moi, je suis partisan de vraiment entraîner les forces de mes adversaires, mais tout en connaissant, bien sûr, les faiblesses. Si on sait qu'il a une partie plus faible au niveau du travail au sol, peut-être qu'on va chercher à l'amener au sol pour justement lui faire une clé ou contrôler le combat au sol le plus longtemps possible. Voilà.
Parce que comme sur la photo qu'on voit là derrière nous, le coup de pied que vous donnez, ça vient de quel sport ? C'est du karaté,
du kickboxing, du taekwondo, c'est-à-dire que toutes les techniques de coup de pied dans divers sports de percussion.
C'était quoi votre spécialité à vous ?
Moi, je viens du pied-point, mais je me considère comme un combattant de MMA complet, c'est-à-dire que en fonction des opportunités dans le fight, je vais les saisir, c'est-à-dire que si je peux finir le combat debout, je vais le finir debout. Si je vois qu'il y a une ouverture pour l'amener au sol et le soumettre, je vais le soumettre. Voilà. Moi, j'aimais bien ce principe un peu de samouraï, de faire des guillotines ou des étranglements arrière, parce qu'il n'y a aucun moyen de dire « Ah, en fait, il a eu de la chance ». Non. Vous voyez l'adversaire qui abandonne. Alors, il n'y a pas de « Ah ouais, mais on n'est pas sûr qu'il ait bien gagné ». Parce que c'est déjà arrivé dans des combats où ils sont connectés au menton, on les voit tomber, l'arbitre arrête, ils disent « Ah, mais pourquoi t'arrêtes ? J'étais pas KO ». Il y a toujours des excuses.
Et ça dure combien de temps, un combat comme ça ?
Alors, un combat professionnel, c'est toujours 3 fois 5 minutes. Et quand vous faites un combat pour le titre, c'est 5 fois 5 minutes. Ça paraît très long ou très court.
Je pense que c'est long quand
c'est
même.
Très intéressant. Ouais, oui, alors c'est toujours drôle de voir les gens qui connaissent pas trop le sport et vous dites ils restent au sol pendant 10 minutes, ils font rien. Et une fois vous les faites essayer ce sport et pendant 2 minutes ils sont morts.
Je pense que les courbatures ça doit y aller quand même.
Non, alors on a pas trop de courbatures parce que c'est des choses qu'on pratique.
C'est quoi les blessures qui accueillent plus dans ce sport?
Les blessures les plus fréquentes, c'est vraiment les coupures. C'est que comme vous avez des coups de genou, des coups de coude au visage et des petits gants, les coupures sont très, très fréquentes. Voilà. Les plus fréquentes, c'est vraiment les coupures, les hématomes, bien sûr. Si vous donnez un coup de pied et que ça tape un os de votre adversaire, il y a toujours des bleus, des séquelles.
Il n'y a pas trop de casse, d'os cassé ou
non, c'est assez rare. C'est des choses qui arrivent, bien sûr, mais c'est vraiment des blessures très, très rares.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'ère de jeu.
Toujours donc avec vous, Nelson Carvalho, pour parler de ce sport qui vous tient à cœur. Vous enseignez maintenant le MMA. Selon vous, Nelson, pourquoi le MMA attire-t-il autant de spectateurs et quels sont les plus grands événements et organisations dans le monde ?
Alors, la plus grande, c'est l'UFC. C'est vraiment la Champions League des sports de combat. C'est-à-dire que tout le monde rêve d'aller là-bas où il y a les plus grands athlètes, les athlètes les mieux payés. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que trois combattants suisses qui sont à l'UFC, ils sont issus du Fight Move Academy à Neuchâtel, ce qui est assez extraordinaire.
Une belle fierté pour vous.
Ça prouve qu'on est un club formateur qui est accessible à tout le monde et qu'on peut vraiment créer des carrières de très haut niveau.
Il y a de la relève.
Il y a de la relève. Et il y a de la belle relève qui va arriver. C'est qu'on espère en signer encore quelques-uns les prochaines années. Et pourquoi ça attire autant de monde ? Simplement parce que c'est un sport sensationnel. Il y a un gros marketing derrière. Bien entendu, comme tous les sports, si vous admirez certains athlètes et qui vous font rêver, ça donne encore plus d'intérêt pour le sport. Et ensuite, c'est réalisé, c'est bien réalisé. C'est-à-dire que si vous avez un show où il y a 20, 30, 50 000 personnes avec des effets de lumière, il y a un teasing qui est vraiment bien fait.
C'est un peu comme au catch, il y a aussi toute cette mise en scène.
Oui, il y a la mise en scène, mais après c'est du vrai combat.
Oui, après c'est différent, mais j'entends, mais quand on rentre...
Sujet sensible, le catch.
Non, ça me gratte, là, vous parlez de catch. Non, mais alors, blague à part, le catch, ça reste des athlètes, mais ça reste des athlètes qui sont des comédiens. Voilà, bien faire la différence.
Mais là, quand on rentre dans ce stade, il y a aussi toute cette mise en scène avec la musique.
Exactement,
ça.
Oui, le public. Après, moi, si vous voulez vraiment assister à quelque chose de similaire dans la région, le 7 juin à Neuchâtel, nous organisons la 11e édition du Lions FC, où il y aura 12 combats. Des combattants du Brésil seront là, des Portugais, des Français, des Allemands, des Russes. Ça sera vraiment très intéressant et c'est proche de chez vous.
Et ça sera où ?
À la riveraine de Neuchâtel.
C'est dans quel pays que le MMA est le plus populaire ? Est-ce qu'il y a une région dans le monde où...
Oui, alors les États-Unis, bien sûr, okay. Le Brésil. Et aujourd'hui, je pense que la France est justement classée dans le troisième ou quatrième pays où il y a le plus de médiatisation sur le MMA.
Puis en Suisse, ça se passe comment au niveau de la médiatisation ? C'est un peu compliqué ou...
Non, ça commence à avoir quelque chose, mais c'est clair qu'on a... On est un petit peu dans l'ombre de la France, je pense. Mais il y a de plus en plus d'événements après le Covid qui sont en train de revenir. Ce week-end, on était à Zurich, où j'ai un athlète professionnel qui a combattu et deux amateurs. On a gagné.
Bravo.
Merci beaucoup.
C'est bien de le dire.
Il faut le dire. Et il y a de plus en plus... Je pense que plus il y aura d'événements sportifs de ce genre en Suisse, plus il y aura d'intérêt, parce qu'on va commencer à créer des petites stars locales. Et automatiquement, il y aura public qui va s'accrocher à lui, qui va le suivre un petit peu partout, que ce soit en Europe ou à l'international.
Et vous avez parlé des Jeux Olympiques, alors est-ce que le MMA va faire partie des Jeux Olympiques
ils sont dans le process. Je sais que cette année, il y avait la boxe qui avait été retirée aux derniers Jeux Olympiques, qui était en lice. Alors le MMA, le paddle tennis et la boxe anglaise. Je crois que la boxe a été retenue pour 2028 à Los Angeles. Et je pense que la prochaine édition, il y aura quelque chose, ou peut-être comme sport invité, mais il y a vraiment un gros travail qui est fait par la fédération de l'IMAF, la fédération internationale, et je pense que ça va se concrétiser.
Jusqu'à midi, l'ère de jeu.
Et l'ère de jeu se poursuit toujours en compagnie de Nelson Carvalho, champion de MMA, et avec vous Claire, toujours joyeuse, toujours souriante en ce dimanche de Pâques. Et puis on vous rappelle, c'est quand même important, qu'on vous a lancé un petit défi. Envoyez-nous vos photos de vos plus beaux shorts, défi lancé par Nelson. Donc ça se passe directement sur notre WhatsApp au 079 809 2020.
Et vous n'êtes pas obligé de porter votre short, vous le mettez sur une table ou... Enfin, comme on a ici dans le studio, les shorts de notre invité. Vous aimez les shorts qui soient un petit peu fun comme ça.
Oui, il faut que ce soit fun. Bien sûr, on fait déjà un sport tellement dur qu'avoir un petit peu de pimp, c'est cool.
Je sais que dans le football, il y a longtemps, peut-être au siècle passé, ils choisissaient des fois des couleurs pour intimider l'adversaire. Est-ce que ça se fait aussi en MMA ?
Non, ça se fait pas, mais... Mais je pense qu'avoir un truc un peu stylé qui nous plaît, c'est super sympa. Ouais. Si on peut un peu customiser ses shorts, c'est cool.
Alors, focus ce matin hein, sur ce sport, le MMA. Alors, c'est un sport de combat, mais ce n'est pas un sport, finalement, qui engendre la violence. Il faut bien se mettre ça dans la tête.
Alors, moi, j'aime beaucoup dire toujours la même chose. Hein, c'est que, pour moi, la violence, c'est la guerre. C'est des parents qui frappent leurs enfants, c'est les agressions dans la rue de personnes plus fortes physiquement à des personnes plus faibles. Ça, pour moi, c'est de la violence. Là, vous avez des athlètes, des combattants qui sont surentraînés et qui s'affrontent simplement pour voir qui c'est le meilleur physiquement et techniquement. Alors pour moi, c'est pas de la violence. Surtout que vous voyez que c'est en général, très souvent, ils se prennent dans leurs bras parce que il y a un signe de respect parce qu'ils savent par quoi ils sont passés, par les sacrifices, par toutes les épreuves pour être prêts le jour J.
En cas, par exemple, d'agression, hein, si quelqu'un nous approche et essaye d'être violent avec nous, est-ce qu'on pourrait utiliser quelque chose de MMA ou c'est vraiment interdit?
La meilleure des techniques, c'est la course. Ça reste la course.
Effectivement.
Mais oui, je pense que des techniques de MMA peuvent servir. Mais de nouveau, il faut être vraiment conscient que c'est un risque à prendre parce que la rue, c'est pas, il y a pas de cadre. C'est que si la personne n'est pas toute seule, etc., ça peut rapidement venir difficile. Mm-hmm. Mais je pense que quelqu'un qui est entraîné, il pourra facilement se déjouer d'adversaires parce que, en général, c'est pas des gros athlètes. Hein, c'est-à-dire que peut-être qu'ils ont 45 secondes de cardio.
Oui, alors c'est pas ça.
Je verrai jamais un athlète de haut niveau agresser quelqu'un dans la rue pour se montrer qu'il est plus fort. Mais il n'y a pas de question d'ego.
Si vous, demain, vous deviez être agressé dans la rue, vous savez déjà comment... Bon, après, ça dépend de la manière dont vous êtes agressé, mais est-ce que vous avez des techniques pour...
Non, c'est l'instinct. Je pense.
L'instinct,
c'est que,
ouais.
Moi, j'ai drillé, j'ai entraîné des techniques des centaines de milliers de fois qu'il y a des automatismes qui se créent et qui, je pense, qui seront là pour me sauver le jour J.
Mais il y a le Krav Maga, alors, qui justement enseigne des techniques de défense, de self-défense.
Oui. Je vais vendre ma paroisse, hein, c'est que les sports de combat, je sais que c'est des choses qui sont efficaces, parce qu'elles sont prouvées durant des compétitions. Maintenant, je n'ai jamais eu à utiliser des techniques de défense dans la rue, alors je pense qu'il faut pratiquer énormément, que ce soit le Krav Maga, le karaté ou n'importe quel sport de combat ou de défense, mais il faut le pratiquer beaucoup. Parce que c'est bien gentil d'aller une fois par semaine pour se donner bonne confiance, mais je suis pas sûr que ça en pratiquant juste pour se donner bonne conscience que vous allez réussir à vous sauver en cas d'agression.
Quand vous étiez encore actif, c'était combien d'heures d'entraînement par semaine ?
Bah, c'était 4 à 5 heures par jour, 6 jours sur 7. Et tout ça, c'est pas sur 2 mois, hein, je vous parle ça, c'est sur 20 ans de
carrière.
20 ans de carrière, ouais.
Maintenant que vous avez arrêté, vous continuez, j'imagine, toujours à vous entraîner, quand même un petit peu moins.
Alors, je m'entraîne beaucoup moins, mais je continue à m'entraîner parce que c'est un lifestyle, c'est ça qui me maintient, en fait, en bonne santé mentale et physique.
On a vu que Roger Federer, la raquette lui manquait. Est-ce que vous, ça vous manque, la compétition ?
La compétition ne me manque pas particulièrement parce que j'ai décidé d'arrêter à un certain moment, mais je continue de m'entraîner parce qu'au final, c'est ça qui me fait le plus plaisir, c'est les entraînements, le dépassement de soi. Et j'ai pas besoin de flatter mon ego en faisant des compétitions. On m'a proposé plusieurs fois de revenir, mais j'ai toujours... en fait, un leader, il montre le chemin, il doit suivre le chemin.
Mais il y a quand même cette adrénaline de la compétition qui peut manquer.
Bien sûr. Alors, je la retrouve en coachant mes élèves. Il y a encore beaucoup plus d'adrénaline quand vous devez coacher des athlètes. C'est beaucoup plus stressant.
Et là, vous transmettez votre savoir aux générations futures.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
L'air de jeu consacré au MMA avec notre invité Nelson Carvalho. Mais tout de suite, Claire, on va jouer.
Oui, et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Tatiana qui habite à Boudry. Bonjour Tatiana, comment se passe ce long week-end prolongé de Pâques ?
Bonjour, écoutez, tout se passe bien. Ça fait du bien une pause pascale.
Est-ce que vous avez un petit peu mangé des œufs ? Est-ce que vous êtes allé à la chasse aux œufs ?
Écoutez, non, j'ai pas mangé d'œufs. J'ai fait de chasse aux œufs, mais voilà.
Comment vous passez ce dimanche de Pâques ? Comment ça se passe chez vous ?
Ce dimanche, on est invité pour Pâques chez ma belle-mère. Donc, on est sur la route pour Tramelan.
Ah, d'accord.
Donc, voilà.
Vous êtes... c'est pas vous qui conduisez ?
Non, pas du tout.
Alors,
c'est
parfait. C'est parfait, comme ça, vous allez pouvoir jouer avec votre époux.
Il a le droit de vous aider, votre mari, si jamais.
Voilà.
Mais que ça, ça s'arrête là.
Alors, il y a trois extraits musicaux. On va vous poser des questions sur ces extraits musicaux. Ensuite, vous l'entendrez, cet extrait musical. Et puis, vous jouez pour une carte cadeau de 50 francs à faire valoir chez De Saules Horticulteurs. Et c'est à Cudrefin. Vous allez pouvoir choisir les fleurs, les plantes aromatiques. Enfin, il y a un vaste choix. Est-ce que vous êtes prête, ma chère Tatiana? Il faudra en tout cas nous donner deux bonnes réponses pour empocher cette carte cadeau.
L'air de jeu, le blind test.
Pour le thème de quel film cette musique est-elle connue?
C'est Rocky.
Mais oui, parfaitement, c'est Rocky avec, bien évidemment...
Sylvester Stallone
hein, dans le rôle de Rocky Balboa. Et puis cette musique, elle avait aussi servi de générique pour l'émission radio Les Grosses Têtes, avec Philippe Bouvard.
Oui, c'est juste, ouais, pendant de nombreuses années. D'ailleurs, j'ai vu Stallone dans une série il n'y a pas longtemps. Il se porte bien hein, pour son âge. Hein.
Mais je ne sais pas quel âge il a.
Il se
porte très bien même.
Oui. Ah, très bien. Deuxième extrait, attention Tatiana. Quelle chanteuse américaine a sorti en 2003 le titre « Fighter » qui signifie « combat », qui est issu de son album « Stripped ». Écoutez. Cette chanteuse, elle avait connu un grand succès en 2006 avec la ballade qui s'intitule « Earth ». Et puis, elle a également repris avec Pink, Mia et Lil Kim la chanson Lady Marmalade pour le film Moulin Rouge. Ses initiales sont CA. Voilà, ça c'était les indices qu'on avait donnés jeudi avec Joël.
CA, Tatiana, est-ce que vous avez une idée?
C'était le prénom et A, le nom de famille?
Oui, tout à fait.
Ah, Christina, non, ou bien Aguilera.
Voilà.
Ouais.
Bravo. Bon, bah, c'est déjà gagné, du coup.
Oui, mais allez, pour le fun, on va quand même passer le dernier extrait. Alors, quel célèbre groupe de hard rock originaire de Sydney a sorti cette chanson? Écoutez. 'Cause I'm TNT, I'm dynamite.
Ça, ça motive pour le MMA.
Ah ouais, c'est explosif, hein, TNT. Alors, qui est le groupe qui a sorti cette chanson?
AC/DC.
Eh oui,
félicitations.
Cool. Bah, bravo, alors vous y connaissez bien en musique, ma chère Tatiana. Oui. Et vous remportez cette carte cadeau. On vous souhaite une bonne suite de dimanche. Merci d'avoir pris du temps pour jouer avec nous. Et puis, joyeuse fête de Pâques.
Bah, je vous remercie beaucoup et bonne fête de Pâques à vous aussi.
C'est quoi,
merci.
C'est quoi le menu pour midi, vous savez?
Non, je ne sais pas.
Vous savez
c'est
pas, ce sera la surprise. Bon, en tout cas, vous souhaitez,
voilà, on verra bien.
En tout cas, vous souhaite un très très bon appétit, Tatiana.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Avec une Claire sportive et bagarreuse.
Ça sent le débrief, ça.
Ça sent le débrief, oui, effectivement, Claire, toujours en compagnie de Nelson Carvalho. Je ne vais pas le dire, le mot, je crois qu'il ne sortira pas.
Et oui, on parle de MMA ce matin, et puis j'ai les gants, hein, c'est ce que vous utilisez pour combattre. Et puis, ces gants, ben oui, ils sont assez...
Ils sont durs, hein.
Ils sont durs, hein. Alors justement, pour en revenir aux compétitions de MMA, quelles sont les règles essentielles? Et puis, est-ce que les juges, ben, ils vont évoluer les combats, mais sur quels critères?
Bah, en général, les juges, ils vont vraiment mettre celui qui met le plus de domination dans le combat. C'est-à-dire le plus d'initiatives au niveau des percussions, des amenées au sol ou des attaques de soumission. Et c'est vraiment sur ça qu'ils vont se baser. C'est-à-dire le temps de contrôle, le temps de domination durant le combat, les percussions effectives, parce qu'il y a des coups qui vont partir dans le vide ou qui sont bloqués. Mais on parle de percussions effectives, qu'on voit vraiment que l'adversaire reçoit un coup et qu'il n'a pas pu se défendre. Et ensuite, bien sûr, s'il y a un chaos, une soumission, bah, c'est plus facile de juger. Voilà. Moi, ce que j'essaie d'apprendre à mes athlètes, c'est de jamais laisser entre les mains des juges. Parce que des fois, il y a malheureusement des erreurs.
Mais alors, quelqu'un qui est un petit peu faible de caractère, est-ce que ça veut dire qu'en combat, il sera retranché sur lui-même? Il n'osera peut-être pas affronter la personne?
Alors, ce qui est intéressant, je pense qu'avec faible de caractère ou faible physiquement, c'est que moi, j'ai vu beaucoup de personnes se transformer. C'est-à-dire que entre la personne qui arrive le premier jour à la salle et la personne qui fait de la compétition, le caractère est totalement différent. C'est qu'il s'est vraiment métamorphosé. C'est qu'il y a un gain de confiance et autres. Je pense que quelqu'un qui est faible de caractère, qui n'a jamais pratiqué d'entraînement, sera difficile pour lui de combattre. Mais quelqu'un qui est faible de caractère, comme vous dites, et qui s'entraîne durement, et ça sera une autre personne à la suite.
Mais après ça, c'est aussi tout le mental.
Le travail mental, bien sûr. Le gain de confiance, c'est que nous, on fait vraiment un travail sur les jeunes pour leur apprendre à se dépasser, à se battre. Pas forcément que dans une cage ou dans un ring, mais se battre dans la vie pour réussir.
Mais justement, est-ce que vous avez aussi envie de véhiculer une philosophie? Est-ce que ça, c'est vraiment... C'est quoi que vous avez envie de transmettre avec ce sport-là?
Moi, j'ai envie que mes jeunes, ils soient admirés. Je ne veux pas qu'ils soient craints, c'est-à-dire que je n'ai pas envie que ce soit les champions de la cour de récré, j'ai envie que ce soit des champions dans leur sport. Alors, bien sûr, il y a des valeurs qui doivent être transmises sur le respect, sur le courage, sur l'aide, parce qu'on fait un sport qui est quand même un sport seul, on est seul contre son adversaire, mais c'est le sport au final le plus collectif qui existe, parce que tout seul, vous ne pouvez pas arriver... à haut niveau, c'est que vous avez besoin de vos partenaires d'entraînement pour progresser, pour faire des échanges techniques et qui vous challenge, qui vous aide à dépasser et sortir de votre zone de confort.
Alors quand vous combattiez Nelson Carvalho, est-ce que quand vous étiez sur le ring dans une bulle ou d'entendre le public, ça vous donnait une force supplémentaire?
Alors il y a de tout. Alors le public, il peut autant vous donner. Je vous donne un exemple. Là, j'ai combattu au Brésil devant 4 ou 5 000 personnes, très tardivement, 45 degrés dans la salle, 80%, 90% d'humidité, où le public, il n'était pas vraiment pour moi. Il était plutôt contre moi parce que j'affrontais le champion local et ça me donne de la force, oui. Et ensuite, le public, le but, c'est de le retourner, de le mettre de votre côté, c'est vraiment, grâce à vos performances.
Alors, c'est un peu propre à chacun, ça. Mmh. Il y en a qui vont peut-être un peu plus...
Ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur quand ils vont combattre, c'est faux. Il y a plein de peurs qui se passent, mais après, on doit surmonter ça. La peur existe, la peur de perdre, la peur de décevoir, la peur de se faire mal, la peur de faire mal à l'autre. Elle est bien là, mais c'est ça qui est beau. C'est que...
C'était l'ambiance la plus hostile que vous avez connue au Brésil.
Au Brésil, c'était vraiment le... Ouais, je ne vous dis pas ce qui crie. C'est tu vas mourir, le gringo. Ils savaient pas que je parlais portugais, ils ont pas compris, mais je comprenais tout ce qu'ils disaient. Alors là, il faut rester vraiment bien focus.
Avant de monter sur le ring, est-ce que vous aviez un rite ou comment vous faisiez pour vous mettre justement dans le combat? Vous aviez une manière bien à vous?
Moi, j'essayais vraiment de vider toute cette mauvaise énergie qu'il y avait autour, ou tout ce stress, etc. Et au final, c'est toujours dès que vous passez la porte, c'est que dès que la porte fermait, là j'étais vraiment dans mon environnement. C'est comme si je flottais dans l'eau. C'était un moment agréable. Voilà. Et la victoire, c'est comme quelque chose d'exceptionnel. Ouais.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
Et vous avez choisi une photo, Josette.
Oui, bonjour.
Bonjour Josette, comment allez-vous?
Ça va bien, Claire, merci à vous.
Ah, mais très bien, il est magnifique votre short. Hein.
Merci.
Et puis vous l'avez un petit peu mis au goût du jour, hein. Vous l'avez customisé façon Pâques.
Oui, tout à fait.
C'est ça. Et c'est un short d'été que vous mettez. Et est-ce que vous faites un petit peu de sport?
Oh oui, moi je fais de la gymnastique, de la marche.
Le MMA, ça
j'aime
vous
bien.
Tente?
Les sports de
j'aime
combat.
Pas trop la j'aime pas
c'est
trop
pas un
les
sport
sports
violent,
de combat.
Nelson, on compte sur vous.
Voilà, alors on l'a déjà dit, on l'a répété.
Pourquoi les gens ont un petit peu une crainte des sports de combat, selon vous?
Je pense qu'il y a toujours une appréhension parce qu'il y a une méconnaissance qui est globale. C'est-à-dire que le plus difficile, c'est toujours de passer la porte. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans la salle et que vous allez crocher à 100%.
Et alors vous, Josette, ce serait quoi qui... C'est quoi votre crainte des sports de combat?
Bon, disons que j'aime pas trop, par exemple, la boxe, parce que je trouve que c'est un peu violent. J'aime pas quand les gens se tapent.
Dans les MMA, il y a pas forcément des coups comme à la boxe.
Ce qu'il faut faire la différence, c'est vraiment le sport de compétition. Bien sûr, les compétiteurs doivent se frapper pour gagner un combat. Mais en sport, entraînement, c'est vraiment un sport ludique où il y a les débutants, ils se touchent même pas. C'est-à-dire qu'il y a un travail technique, un travail sur des sacs de frappe, des pattes d'ours. Et vous rentrez avec votre joli visage à la maison, comme quand vous êtes arrivé.
Un petit peu rouge peut-être, mais ça s'arrête
là. Mais finalement, quand on est un petit peu énervé, on prend des gants comme ça et taper dans un sac.
C'est magnifique.
Ça enlève toute l'agressivité quand on est énervé.
Le stress, oui.
Voilà. Mais voilà, ma chère Josette, vous allez pouvoir bénéficier de cette carte cadeau lundi et on vous souhaite un bon dimanche et merci d'avoir participé à notre défi photo.
Merci beaucoup et puis joyeuse Pâques à tous.
Joyeuse Pâques à vous aussi.
Merci.
10h, midi. Envie de prendre l'air de jeu.
Et on arrive déjà, Claire, à la fin de cette émission. Ça passe vraiment trop vite.
Mais ça a passé vraiment. On n'a pas vu le temps passer. C'était passionnant que de découvrir le monde du MMA, monde que notre invité a pratiqué, hein, puisqu'il a été plusieurs fois champion de MMA. Maintenant, il enseigne le MMA à des générations qui vont peut-être lui faire honneur et qui lui ont déjà fait honneur, hein, puisqu'il y a déjà eu des victoires. Alors, pour quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans ce sport, quel conseil vous pourriez lui donner, Nelson ?
Il suffit de passer la porte, comme je dis toujours, c'est le plus difficile, parce qu'on a souvent des appréhensions ou des craintes, ou de ne pas être à la hauteur, mais... Comme je dis toujours, c'est toujours ma phrase, il ne faut pas être fort pour commencer, mais il faut commencer pour le devenir. Et c'est un sport très complet, c'est qu'on enseigne plus de 15 disciplines différentes à mon centre d'entraînement. C'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de faire du MMA, mais ce n'est pas le sport qui vous correspond. Alors on peut vous rediriger vers la boxe thaïlandaise, la boxe anglaise, le jiu-jitsu brésilien ou un sport de préparation physique comme le crossfit, e-rox et d'autres choses. Quoi.
C'est toujours dans la bienveillance aussi que
oui,
se passe...
Je pense que le cadre, on a un très grand club, c'est qu'on a vraiment formé des champions, mais on a un club formateur, c'est qu'on a des jeunes. Et je pense qu'on reste un club familial, c'est-à-dire qu'il y a de la bienveillance et que... Moi, mon objectif et ceux de mes coachs, c'est vraiment de faire progresser nos élèves et surtout qu'ils soient bien mentalement et physiquement.
Vous avez autant de filles que de garçons ?
Alors, il n'y a pas autant de filles que de garçons, mais je pense que c'est 40-60%, je pense. C'est assez proche.
Ah, je ne pensais pas que c'était
Il y a même des cours, on a lancé des cours. Alors, je ne suis pas partisan des cours uniquement filles, mais on a lancé quand même des cours que pour les filles. Pour justement qu'elles gagnent suffisamment de confiance pour après rejoindre les autres cours et aussi pour qu'elles puissent se dépasser entre elles parce que ça reste un sport de contact, on a beaucoup de sports de contact, beaucoup de sports physiques et je pense pouvoir qu'elles se challengent aussi entre elles, c'est très très bien pour la mise en confiance.
Et vous qui travaillez maintenant beaucoup avec les jeunes, est-ce que vous avez une anecdote, une histoire d'un jeune qui vous a marqué?
Moi j'ai eu des jeunes. Quand ils sont arrivés, ils ne savaient rien faire. Et de les voir évoluer, c'est comme quand vous avez votre enfant qui ne sait pas marcher, que vous le voyez tout d'un coup marcher, courir et évoluer dans la vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et j'ai des jeunes qui sont arrivés sans talent, où je me disais, c'est cool, il vient, mais je ne pense pas qu'il pourra faire carrière et qu'aujourd'hui, il a réussi à faire des carrières, une belle carrière.
Une belle fierté aussi, quand même.
C'est une belle reconnaissance pour vous.
On n'a pas forcément besoin de devenir champion du monde ou d'être professionnel, mais rien que de faire une jolie petite carrière à côté de ses études en tant qu'amateur et d'avoir ce challenge et ce dépassement de soi, je pense que c'est rien que ça, c'est magnifique.
Rappelez-nous vite votre objectif pour le 7 juin. Qu'est-ce qui va se passer? Un événement assez incroyable.
Voilà, alors le 7 juin, on organise la 11e édition du Lions FC où on va promouvoir justement nos athlètes. C'est-à-dire qu'on veut promouvoir des jeunes athlètes neuchâtelois et Suisse, qui vont affronter des combattants internationaux du Brésil, la France, Portugal, Russie, etc. Et notre objectif, c'est de vraiment promouvoir et montrer les valeurs de notre sport et que les gens puissent passer un beau moment à Neuchâtel sans devoir aller à Las Vegas ou à Paris pour assister à un événement de qualité.
En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin pour ce focus sur le MMA. Merci Nelson Carvalho et puis bonne chance.
Merci beaucoup.